Bonjour à chacun. Bonjour. Pour ceux qui se rappellent de moi, ça fait plaisir de vous voir. Il y a plein de visages aussi que je connais moins. J'ai beaucoup de joie d'être ici. C'est vrai, pour nous aussi, c'est quelque chose d'émotionnel de revenir. On est, alors, le lien le plus facile pour comprendre, je ressemble un peu à Luc, que vous connaissez. Je ressemble un peu à votre pasteur aussi, Mwanza. Le lien le plus facile, c'est que je suis de la famille Bulundwe. Le nom, c'est pas par hasard, il n'y en a pas plein en Suisse, dans le monde d'ailleurs. On est souvent connectés. Et puis, c'est vrai que j'ai été ici pendant des années, on a été ici pendant des années avec notre famille. Et c'est juste une joie, un privilège, un honneur d'être là. Et puis, on veut vous dire merci. Je tiens à remercier toutes vos pasteurs, toute l'équipe pastorale pour la confiance, puis le fait qu'ils me donnent la possibilité de parler ici. Je prends ça vraiment pas à la légère, je vous remercie et je suis reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de vous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'ai mis une petite photo, ça fait plaisir de commencer comme ça aussi, comme ça les autres vous pouvez voir notre famille où on en est. On est Janet, moi et puis on a deux petites filles que vous avez vues par ici ce matin, Elisha la plus grande qui a maintenant 3 ans et demi. Plusieurs se sont surpris de dire waouh, elle a grandi. J'ai envie de dire c'est ce qu'ils font le mieux sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Et puis la deuxième s'appelle Azaya, elle est dans les bras de sa maman. Et puis la maman, c'est l'incroyable Janet. Voilà, pour ceux qui la connaissent, une femme de valeur. Et on a beaucoup de joie de pouvoir être ici. On s'est mariés maintenant il y a 9 ans. Et puis on a été ici responsable auprès des jeunes. Et puis ensuite, dans une période de transition, j'ai aussi un petit peu aidé vos responsables ici, le pasteur à l'époque, et puis les différents groupes de travail. Avant de partir, implanter une église. Et en fait, ça fait maintenant 2 ans et demi que l'église existe, mais 3 ans et demi qu'on a commencé le process d'implanter une église. On a implanté une église dans la ville de Lausanne qui s'appelle Home, comme la maison. Ça fait maintenant donc 2 ans et demi qu'on a des services réguliers tous les dimanches. Et il y a 3 personnes de Home qui sont là avec nous aujourd'hui aussi. Il y a Cindy, Ingrid, que vous connaissez aussi, et puis Elisabeth, qui sont avec nous aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on... C'est quelque chose qu'on aime faire, on dit qu'on fait la vie ensemble. Et puis le plus possible, on essaie de à chaque fois que je me déplace, j'essaie d'avoir du monde avec moi. Et aujourd'hui, c'est ces 3 qui sont des responsables chez nous. Quelques infos sur Home. C'est pas le sujet ce matin, c'est pas important, mais je sais pas si vous le savez ou pas, vous êtes parmi nos partenaires. Vous êtes une église de soutien, vous êtes une église qui nous a comme envoyé. Et puis on se sent vraiment privilégié d'avoir des partenaires dans le monde entier et aussi jusqu'à Genève. Au passage, l'accent, ça c'est l'accent de Lausanne. Si vous demandez ce qui se passe dans l'accent, c'est l'accent de Lausanne. Quelques infos sur Home. On est aujourd'hui en moyenne entre 140 et 160 chaque dimanche à se retrouver. On se retrouve sur 2 services. On a un service le matin, un service le soir. Cette année, les grosses nouveautés, ça a été qu'on a commencé le groupe de jeunes. Vous savez qu'une église va bien quand il y a de la jeunesse dans l'église. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nous. On a commencé le groupe de jeunes. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 stagiaires. Un stagiaire qui fait la HET Pro, la haute école de théologie qui est sur le campus d'Emmaüs. Et puis, on a une deuxième stagiaire qui commence son stage maintenant, qui fait ses cours à distance avec l'ITF, l'Institut de théologie francophone, qui est basé à Longueuil, en fait, au Québec. Donc, on a 2 stagiaires, on a un groupe de jeunes, on a une église qui va bien, une église qui grandit. On est ébahis de voir ce que Dieu fait. Nous aussi, on a eu des baptêmes juste avant les vagues de chaleur de l'été. Et puis, on a aussi une prochaine session de baptême qui se prépare en septembre. Donc, on a régulièrement des baptêmes, on est vraiment réjouis de ce que Dieu fait. Et au milieu de tout ça, on a aussi des défis de tout type. Mais un des défis qu'on a, par exemple, en ce moment, c'est qu'on a appris que le lieu où on se retrouve les dimanches devait subir des travaux. Et du coup, pendant tout l'été, on n'avait plus de lieu pour se retrouver les dimanches. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a la même Bible, qu'on a le même Seigneur. Et puis, dans les livres des Actes des Apôtres, qui est un livre comme un guide de route pour la vie de l'Église, je me suis rendu compte que le problème de local n'était pas un problème pour eux. Alors, ce ne sera pas un problème pour nous. Et on a trouvé plein de subterfuges et de manières de pouvoir faire, de continuer à vivre l'Église. Donc, on continue à vivre. Mais c'est le genre de défi qu'on a au quotidien. On vit vraiment des belles choses. Puis, ça, c'était quelques nouvelles. Merci à vous d'être partenaires, d'être des soutiens dans cette aventure. Si vous voulez plus d'informations sur ce soutien que vous êtes un soutien réel. Ce n'est pas seulement dans les prières. Demandez à vos pasteurs comment est-ce que vous, ici à Carouge, vous soutenez ce qui se passe en ce moment à Lausanne. Voilà, on va commencer le message. Et puis, je vais vous inviter à prendre la Bible avec moi. Qui a une Bible encore papier comme ça? S'il y en a qui ont, faites-moi signe avec votre Bible. Yes, j'aime ça. J'ai toujours un iPad avec moi, mais ces derniers temps, en particulier cet été, je me suis fait la réflexion. J'ai recommencé à prendre ma Bible le matin, puis à lire la Bible papier. C'est pas que c'est mieux, c'est pas que c'est plus sain, c'est pas que c'est plus magique ou quoi que ce soit, mais mes filles me voient. Et mes filles me voyaient sur l'iPad, elles savaient que c'était la Bible, mais des fois sur l'iPad, je fais d'autres choses aussi. Puis j'avais envie de leur montrer, c'est vraiment important de prendre ce livre et puis de construire ce livre. Alors j'ai commencé à dire, en fait, je vais prendre ce livre-là. Pour que quand les filles me voient, quand les filles se réveillent, souvent j'essaie de le faire avant que les filles se réveillent, quand les filles se réveillent, quand Elisha vient me demander son lait, demander de pouvoir regarder la télé ou quoi, elles me voient plonger dans la parole de Dieu. Alors, si vous avez des bulles papier, ne les jetez pas tout de suite. Vous verrez, si vous n'avez pas encore d'enfants, vous verrez, ça sera utile quand vous avez des enfants, ça sera utile quand vous n'aurez plus de batterie. Mais si vous êtes numérique, c'est bien aussi, on vous aime aussi. On va aller ensemble dans le livre de Josué au chapitre 14 et je vais vous inviter à vous lever pour lire la Bible avec moi. Vous savez, c'est bizarre de faire ça ou c'est pas habituel, je le fais pas tout le temps, mais c'est comme un signe d'honneur pour la parole de Dieu, c'est comme un signe, et ce qu'on va lire là maintenant, c'est vraiment important. Et plus important que tout ce que je vais dire en fait, ces mots-là sont inspirés directement de Dieu, donc si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous puissiez vous lever avec moi. Et on va lire ensemble Josué 14, les versets 7 à 12. Je vais les lire dans la traduction PDV. Et c'est Caleb qui parle, comme ça vous avez juste cette information. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité ». Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi de la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Viens de lire la Bible. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle puisse nous parler ce matin. Ouvre nos cœurs, que tu puisses te révéler à nous d'une façon fraîche et nouvelle. Que ceux qui ont l'habitude de se plonger dans la Bible, Seigneur, puissent être rafraîchis ce matin, puissent être encouragés ce matin, puissent être rendus pleins de force ce matin. Pour ceux qui liraient pour la première fois ce passage, que leurs yeux puissent être éclairés et puis qu'ils puissent comprendre ce que tu veux leur dire ici, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir ce matin. J'ai envie de vous parler d'un principe spirituel clé, de quelque chose de très très important, quelque chose qu'on doit se rappeler, quelque chose qu'on doit avoir devant les yeux, quelque chose qu'on doit continuer à appliquer. Et c'est très très simple, et on verra pourtant c'est très compliqué. Et ici, pour tous ceux qui me précèdent en âge, vous allez tout de suite savoir que c'est facile, que c'est difficile. Pour ceux qui sont plus jeunes que moi, vous allez vous dire « mais non, ça va aller », et vous serez surpris. Le principe spirituel clé qui va changer nos vies, c'est le suivant. Ne pas s'arrêter. Ne t'arrête pas. C'est bateau, hein, c'est simple. Ne t'arrête pas. On lit un passage, j'aimerais reprendre ici, qui a plus de 85 ans dans cette pièce? Yes! Marty, yes! Yes! Les amis, l'homme qui a écrit ou qui a dit les choses qu'on a lues, il a 85 ans quand il dit ça. Il dit... Je vais continuer. Je vais aller chercher ce que Dieu avait pour moi. Et dit, ça fait 45 ans que j'attends ce moment. Donc pour tous, qui a moins de 40 ans dans cette pièce? Okay, vous ne pouvez même pas comprendre. Ça fait plus de toute votre vie qu'il attend ce qu'il est en train de vivre. 45 ans que quelqu'un attend. Et alors qu'il est avancé en âge, alors qu'il a plus de 85 ans, que ça fait 45 ans qu'il attend, il arrive un moment et puis il dit, je vais y aller. Je vais y aller jusqu'au bout. Et puis au passage, c'est pas au Club Med qu'il s'en va. Là, je l'ai lu rapidement, mais il s'en va pour la guerre. Littéralement, il dit, j'ai 85 ans. Ça fait 45 ans que j'attends ce moment. Il y a des géants, je vais aller les tuer. Je ne sais pas si vous comprenez que c'est spécial ce qui se passe là. Des fois, on lit comme ça rapidement, c'est spécial, mais c'est un principe pour nous, ne t'arrête pas. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime le basket. Et puis, pendant longtemps, il y a eu un combat que maintenant j'ai résolu. Dieu m'a révélé des choses. Le basket, c'est mieux que le foot. Non, j'embête quelques personnes ici. Je rigole, d'accord ? Je rigole, c'est pas vrai. Vous avez le droit d'aimer le foot, c'est OK. Mais il y a une différence majeure, et puis j'essayais toujours d'expliquer ça. Et puis quand je préparais ce message, je me suis rendu compte que je crois que c'est quelque chose de spirituel aussi. Il y a quelque chose que je trouve passionnant au basket, c'est que vous n'avez jamais le droit de reculer. Je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a une règle qui s'appelle littéralement le retour en zone. Et ça veut dire en gros que quand vous avez passé le milieu de terrain, vous n'avez pas le droit de reculer. Si vous reculez, on s'arrête, on donne la balle aux autres. Et en fait, c'est quelque chose souvent quand on argumente, c'est quoi qui est mieux, le foot, le basket. Moi, c'est quelque chose que je mets souvent en avant en disant, les footballeurs, quand vous n'êtes pas sûr, vous reculez, vous reculez, vous reculez. Moi, ça m'énerve quand je regarde ça. Parce que moi, j'ai grandi en faisant du basket et moi, c'est on fonce, on va toujours devant, on va toujours devant, on va toujours devant. Donc, j'ai compris ça, puis c'est quelque chose, ça m'a fait du bien. C'est comme si le Seigneur me disait, tu vois, c'est pour ça que tu aimes le basket. Parce que toi, tu ne veux pas t'arrêter, parce que toi, tu veux toujours continuer, tu vas toujours devant. Et en gros, ce que les règles de basket nous mettent en avant, c'est qu'on ne peut pas seulement rester sur la défensive. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui en particulier, dans l'Église, en Occident en particulier, dans la vie personnelle, mais dans la vie en communauté, il y a un grand risque. C'est celui qu'on recule ou celui même qu'on s'arrête. Souvent, avant de reculer, on commence par s'arrêter. Puis une fois qu'on s'arrête, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on recule. Et puis on peut s'arrêter pour plein de raisons, mais j'aimerais vous en proposer trois, et puis j'aimerais nous encourager tous aujourd'hui à aller de l'avant. Alors regarde ton voisin, fais-lui un high five, dis-lui, ce matin, Yves va te dire de ne pas arrêter. Il y a deux grandes forces qu'on voit quand on regarde les gens faire ce qu'ils font au quotidien. Quand tu regardes quelqu'un construire sa vie au quotidien, il y a comme deux grandes forces qui sont en jeu. Et c'est la suivante, je vais te l'expliquer, elle est très simple. Il y a des gens qui font les choses parce qu'ils ont peur de perdre. Il y a des gens qui font les choses parce qu'ils désirent gagner. On peut avoir peur de perdre ou on peut désirer gagner. On vient de parler du basket. Je viens de vous raconter quelques règles. Il y a une autre règle qui est aussi celle des 24 secondes. En gros, cette règle, c'est quoi ? C'est qu'au moment où vous prenez la balle et que vous allez pour marquer, vous avez 24 secondes. Après 24 secondes, si vous n'avez pas tenté de marquer, ça s'arrête. Si vous avez tenté de marquer, c'est bon. On peut repartir en arrière. Mais si vous n'avez pas tenté, vous pouvez réessayer encore. Mais si vous n'avez pas tenté de marquer en 24 secondes, on s'arrête, on donne la balle aux autres. On vous dit, t'es trop lent, si t'es pas intéressé de gagner, alors laisse la balle aux autres, eux, ils veulent gagner. Et c'est très intéressant, j'ai appris que, en fait, ces règles, elles n'existaient pas au départ, dans le sport du basket. Et le basket, c'est né aux États-Unis. Et quand le basket a commencé, au bout d'un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui regardaient disaient, ce sport est vraiment ennuyeux. Parce que les gens se font des passes, ils tournent en rond, ils se font des passes, ils tournent en rond, ils se font des passes, ils dribblent un peu, ils... Et du coup, ils ont décidé dans l'histoire du sport de dire « on va mettre des règles pour leur forcer à essayer de marquer ». Ça, c'est typique les Américains. On va faire en sorte que ça devienne intéressant. On s'ennuie de regarder ce match, il faut que ça soit intéressant. Donc, ils ont mis en place ces règles. Et c'est intéressant parce que c'est deux types d'attitudes qu'on retrouve aussi dans la vie. Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais au quotidien, toi, dans ta vie ? Est-ce que c'est la peur de perdre ou est-ce que c'est le désir de gagner ? Je crois, ici j'argumente, vous êtes différent à Carou, je le sais, vous êtes spéciaux, vous êtes beaux, vous êtes bons, vous êtes parfaits. Alors, on va dire que c'est à Lausanne. Beaucoup de gens font les choses parce qu'ils ont peur de perdre. Donc, ils prennent leurs décisions dans la vie, ils font leur stratégie parce qu'ils ont peur de perdre. Et je pense que c'est dangereux quand on a peur de perdre. Il y a Jésus qui en parle avec une parabole, on ne va pas la lire ensemble, vous pourrez aller la trouver. Si vous ne connaissez pas Jésus, c'est un gars incroyable qui a donné sa vie pour vous, qui vous aime et puis en qui tout est en toi, on vient de le chanter. Et Jésus, dans sa vie, une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a raconté des paraboles. C'est comme des histoires que tout le monde comprenait puis qui étaient très très riches de sens. Et dans une de ces paraboles qu'on appelle la parabole des talents, il est question de trois personnes qui reçoivent des talents. Des talents, c'est en fait de l'argent. Et puis, il y en a un qui reçoit 5 talents, il y en a un qui reçoit 2 talents, il y en a un qui reçoit 1 talent. Et puis, c'est leur maître qui leur donne ça, leur dit, prenez soin de ça, moi je vais revenir. Puis on voit que les deux premiers ont fait travailler ces talents. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait en sorte que ces talents rapportent plus de talents, donc que cet argent rapporte plus d'argent. Et quand le maître revient, Voilà ce qui se passe. Il dit, alors, où vous en êtes? Puis celui qui avait reçu 5, il dit, j'en ai reçu 5, et puis voilà, il y en a 5 de plus. Son maître est content, il dit, c'est bon ce que tu as fait là. C'est vraiment bon ce que tu as fait là. Il y a un autre qui arrive, celui qui avait 2, qu'est-ce que tu as fait? J'en avais 2, j'en ai 2 de plus, voilà 4 talents. Il dit, c'est vraiment bien ce que tu as fait. Et puis il arrive celui qui avait un seul talent. Puis le maître lui dit, qu'est-ce que tu as fait avec ton talent? Il dit, ah, j'ai eu peur, je l'ai caché, voilà tant talents. Et le maître lui dit, t'es un mauvais serviteur, t'as pas compris. Et il fait quelque chose d'extrêmement surprenant, il dit, donne ton talent, on va donner à celui qui en a le plus. Celui qui sait quoi faire de ses talents. Et ça montre quand même cette dynamique, est-ce qu'on a peur de perdre ou est-ce qu'on désire gagner? Et ça montre une dynamique, vous savez, quand on a peur de perdre, une des choses qui risque de se passer, c'est qu'on perde même le peu qu'on a. Puis j'ai envie de vous dire, les amis, j'ai envie de vous encourager en tant que communauté, mais individuellement, il ne faut surtout pas adopter la stratégie de faire les choses par peur de perdre. On ne peut pas se dire seulement, je vais rester là, je vais rester sécure, je vais garder ce que j'ai, je vais éviter ça. Si vous étudiez la vie de Caleb, et là on arrive sur le principe spirituel, on arrête le basket, on arrête les stratégies. Si vous étudiez la vie de Caleb, celui de qui on a lu les quelques mots au départ, il nous a dit quelque chose de phénoménal. Il nous a dit la chose suivante. Il était animé d'un autre esprit. Il était animé d'un autre esprit. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de voir. Le gars était animé d'un autre esprit. C'est quoi cet esprit? Cet esprit, les amis, c'est l'esprit de Dieu qui lui permettait de faire les choses et d'adopter une posture différente que la plupart des gens. Il nous a dit, dans le texte qu'on a lu, il a dit, il y a 45 ans que le Seigneur m'a dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé 45 ans avant le texte? Dieu a sorti le peuple d'Égypte. En Égypte, c'était littéralement l'esclavage. Le peuple était en esclavage, il n'y avait pas de solution pour eux. Et le peuple criait à Dieu. Dieu a envoyé Moïse qui a permis au peuple de sortir d'Égypte. Ils se sont retrouvés et ils allaient vers ce qu'on appelle la terre promise. Ils ont passé la mer s'est écartée, ils ont passé la mer, ils sont arrivés dans le désert, puis ils auraient dû aller chercher la terre promise. La terre promise, comme son nom l'indique, c'est la terre que Dieu leur avait promis. Puis pour arriver là-bas, ils ont dit on va envoyer des espions pour voir comment est-ce qu'on va aller prendre. Et puis Caleb faisait partie de ces espions quand il avait 40 ans. Puis il va avec ses espions, puis un des autres espions qu'on connaît le nom, c'est Josué, celui qui a écrit ce livre-là. Et puis ils sont 12 espions. Et quand ils rentrent, ils font le rapport en disant « Cette terre est incroyable. La terre que Dieu a pour nous, elle est merveilleuse. » Mais 10 sur les 12 vont dire « Par contre, c'est trop difficile. On ne va jamais y arriver. On n'aurait jamais dû venir ici. Qu'est-ce que Dieu a fait ?» Et seulement 2 vont dire « Non, il faut qu'on aille saisir cette terre-là. » Et ça, c'est l'esprit qui les animait, les amis. Et moi, je me pose la question aujourd'hui, quel esprit nous anime? Parce que vous savez, il y a plein de choses qu'on pourrait prendre, mais une des réalités qu'on voit théologiquement, c'est que l'analogie entre le peuple qui quitte l'Égypte pour entrer dans la terre promise, c'est une analogie que tu peux prendre pour toi. Ce n'est pas seulement historique. Tu peux le prendre pour toi personnellement. Le Seigneur a voulu te faire passer de la mort à la vie, et puis il a un projet merveilleux pour toi, et puis il a une destinée merveilleuse pour toi, puis tu dois aller saisir de cette destinée. Mais voilà ce qu'on voit, c'est que Dieu, il a une destinée merveilleuse pour toi, mais Dieu, c'est pas le Père Noël. Désolé pour ceux qui ne le savaient pas. Il va pas juste te l'amener subitement, comme sorti de nulle part. Il dit, j'ai une destinée pour toi, va t'en emparer. Et le problème, c'est que si t'es pas animé par le bon esprit, tu vas voir cette destinée, tu vas dire, ce serait une vie merveilleuse que je pourrais avoir, mais je vais pas y aller. Et Caleb, lui, il dit, non, je suis animé d'un autre esprit, je vais y aller. Et puis lui, avec Josué, déjà 45 ans avant le texte qu'on a lu, il dit, on s'arrête les amis, non, arrêtez de faire ça, on va y aller. Et Dieu est tellement attristé par la réaction du peuple qu'il décide de dire, ok, tous ceux qui ont peur, vous allez rester là. Vous allez mourir dans le désert, c'est fini pour vous. Josué, Caleb, et les générations qui vont suivre, vous allez vous saisir de la terre promise. Les amis, vous avez une terre promise à saisir. Pour ta vie à toi, mais il y a une terre promise à saisir pour votre communauté ici, pour l'église de Carouge. Cette terre, elle pourra être saisie seulement si on a le désir de gagner et pas la peur de perdre. Cette terre, elle sera accessible quand on aura cet esprit-là qui nous anime, qui est l'esprit de Dieu. Puis qu'on dit, si Dieu est avec moi, je ne ferai pas autrement. Au passage, c'est intéressant parce que beaucoup plus tard, il y a un gars qui s'appelle Paul, qui a écrit pas mal du Nouveau Testament, qui nous dit quelque chose dans Romains 12, 2. Ça, c'est pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez aller regarder. Ne vous conformez pas au siècle présent. Puis d'autres traductions disent « Ne vous laissez pas influencer par l'esprit de cette ère. » Quel esprit t'anime? Quel esprit t'anime? Qu'est-ce qui te motive à aller de l'avant aujourd'hui? Parce qu'un des risques de s'arrêter, je vous ai dit, hein, c'est facile de dire ne t'arrête pas, mais souvent dans nos vies on s'arrête. Et une des raisons, la première que je veux vous proposer, c'est qu'on s'arrête parce qu'on a plus peur de perdre que le désir de gagner. Mon deuxième point ce matin, le mensonge du confort. Dieu a une terre promise pour chacun d'entre nous, il a une terre promise pour la communauté, il a quelque chose de merveilleux qu'il veut nous donner, mais il nous demande quelque chose de surprenant. Et vous savez, plus vous avancez avec Dieu, plus vous vous rendez compte qu'il est insaisissable. Plus vous avancez avec Dieu, là les personnes qui sont plus âgées, vous comprenez. Plus vous connaissez Dieu, plus vous vous rendez compte que vous ne le connaissez pas. C'est comme, je pensais que j'avais compris. Et il continue à nous surprendre. Ça, c'est une de mes prières, Seigneur, que je puisse continuer à être surpris par toi chaque jour. Le mensonge du confort, c'est quoi? C'est que souvent, on pense, on entend une vérité. Dieu t'aime, il a envoyé son Fils pour toi, qui s'appelle Jésus-Christ. Il a donné sa vie afin que tu puisses avoir la vie qu'il avait désirée pour toi. Il a une destinée pour toi, il a l'éternité pour toi. Et souvent, on se dit, oh, mais c'est génial. Je dis oui à Dieu, et puis je vais avoir ma destinée. Je vais avoir ma terre promise. Mais on ne comprend pas qu'il dit, j'ai une terre promise pour toi, va la conquérir. Puis ça veut dire qu'il faut que tu ailles te battre. Puis des fois, on fait des raccourcis, et je l'ai déjà dit ici, mais on dit, je vais aller de victoire en victoire. Dites-moi ici, qui veut aller de victoire en victoire dans sa vie? Ok, il faut être prêt d'aller de bataille en bataille. Hein. Il n'y a pas de victoire sans bataille, désolé. Des fois, on oublie ça, hein, mais il n'y a pas de victoire sans bataille. Donc, la réalité derrière, je vais aller de victoire en victoire, ça veut dire, je dois être prêt d'aller de bataille en bataille. Puis le Seigneur, il dit, j'ai une chose merveilleuse pour toi, mais tu dois aller la conquérir. Tu vas aller te battre pour ça. Et voyez, Caleb, 85 ans, il dit, cette terre-là, Dieu me l'a promise il y a 45 ans, je vais aller la saisir, il paraît qu'il y a des géants, attends que les géants me rencontrent. Quand ils vont voir ce qu'un papy de 85 ans avec Dieu peut faire, les géants de 3 mètres et plus vont partir en courant. Mais ça, les amis, c'est une mentalité et il faut faire attention au mensonge du confort. Ta vie ne va pas te tomber dessus, la destinée ne va pas te tomber dessus. Le problème, c'est que souvent, on pense que la vie avec Dieu, elle doit être calme. Souvent, on pense, ah non, mais si je vis avec Dieu, tout doit être facile, tout doit être simple. Puis il y a un principe ici, c'est un principe secondaire à mon message, mais je vais vous le donner parce qu'il est important, puis il va même apparaître à l'écran. L'absence de défi ne signifie pas la présence de Dieu. Je vais le répéter, c'est important que vous compreniez. L'absence de défi ne signifie pas la présence de Dieu. Des fois, on pense, s'il y a un des défis, c'est sûr, il n'y a pas Dieu. Ce n'est pas forcément vrai. L'absence de défi, ça ne signifie pas nécessairement la présence de Dieu. Je laisse ça descende un peu dans nos cœurs. J'ai entendu parler d'une église qui avait vécu un défi monumental, un défi où tout était remis en question sur l'église, sur ce qui se passait. Et voilà deux attitudes intéressantes. C'est le pasteur lui-même qui me racontait ça. Il me disait, il y a des gens de l'église qui sont venus, puis qui lui ont dit, tu vois, c'est le diable qui nous attaque. Et il y a d'autres personnes de l'église, la même église, hein, la même église, le même pasteur, des personnes de l'église qui sont venues, qui ont dit, ça c'est Dieu qui en avait marre de notre confort. Je ne vais pas vous dire ce que moi je pense de ces situations. Mais c'est pour montrer comment, vous voyez comment on peut prendre les choses. Et moi j'ai envie de vous dire, attention les amis, attention de penser qu'avec Dieu ça doit être tout tranquille. Je ne crois vraiment pas ça. Je ne crois vraiment pas ça, je crois au contraire. On doit oser continuer à se battre avec Dieu. Prenez un instant avec moi, on va réfléchir à quelques héros de la foi et on va voir à quel point leur vie avec Dieu était toute tranquille tout du long. Prenons par exemple, prenons David. Si vous regardez la vie de David, croyez-moi, on nous dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. On sait qu'il avait une proximité, une intimité avec Dieu comme très peu de personnes. Mais les amis, il en a eu des défis. Hein. Il en a eu des défis. Si vous n'êtes pas convaincu que ça, lisez les psaumes. Vous verrez que si un tiers des psaumes, il se lamente, c'est parce qu'il a des défis. Prenons un autre héros, Moïse. Moïse, il a eu des défis. Il a eu des défis avant, il a eu des défis pendant qu'il était avec le peuple. Il en a eu des défis. Mais pourtant, personne n'était dans une relation aussi proche que lui avec Dieu. Parlait avec Dieu, il voyait ce qu'il y avait. Et des fois même, ils argumentaient, Dieu et lui, sur les défis qui se passaient. Dieu lui disait, ok, je vais les enlever tous. Moi, il se dit, non, tu les aimes, garde-les quand même. Garde-les, je sais, ils sont compliqués, mais s'il te plaît, on continue. Prenons Joseph. Joseph, super rêve, je vais avoir de l'influence, je vais aider, ma famille va venir vers moi. Ok, ça va passer par la case prison. Ça va passer par la case prison. Joseph, il est passé par la case prison. Ça ne veut pas dire que Dieu l'avait abandonné. Prenez les disciples. Prenez les disciples. À partir de Actes 4, tout ce qu'on lit des disciples se lit dans un contexte de persécution. Des fois, on l'oublie. Hein. J'aime vraiment rappeler ça. Parce que nous, on se dit que s'il y a de la persécution, c'est sûr que Dieu n'est pas là. Pourtant, le livre historique qu'on a le plus sur la vie des disciples après Jésus-Christ, c'est les Actes des Apôtres. Et après 4 chapitres, on n'est que dans une période de persécution. On a dit qu'ils devaient partir, qu'ils devaient faire attention, que certains mouraient, que certains étaient tués, qu'ils étaient chassés, qu'ils étaient... Il va y avoir des défis. Hein. Bonne nouvelle ce matin, on va ressortir d'ici motivé. Il va y avoir des défis. Mais ça vaut mieux une vie remplie de défis avec Dieu qu'une vie à côté de sa vie. Si Dieu a un projet pour moi, et je suis convaincu qu'il a un projet pour toi et pour chacun d'entre nous, je préfère vivre le projet de Dieu avec les défis qui sont avec, parce que Dieu est celui qui me protège, Dieu est celui qui est avec moi. Rappelez-vous, Caleb dit, peut-être que Dieu sera avec moi. Je préfère rester avec Dieu et les défis qui vont avec, plutôt que d'être sans défis. Méfions-nous du confort. Récemment, Luc Dumont, que vous connaissez peut-être, compositeur de musique, était chez nous, il prêchait chez nous, puis il a donné une image qui m'a marqué. Il a dit, beaucoup de chrétiens sont comme des grosses tortues sur la plage. Beaucoup de chrétiens sont comme des grosses tortues sur la plage. Puis il disait, c'est beau la plage, c'est joli la plage, puis elles ont un super cadre. Mais en fait, elles seraient beaucoup mieux dans l'eau. Ok, c'est pas grave, vous. On continue. La paix, le fardeau léger, la vie que Dieu a pour nous, c'est souvent une vie d'aventure, une vie de bataille, une vie où on doit être prêt à continuer. C'est rarement un long fleuve tranquille. Puis il faut être d'accord de ça. On va lire un passage pour terminer ce deuxième point dans 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27, on va aller ensemble. C'est Paul qui parle. Je vous ai dit, Paul a vécu lui aussi des défis. Il a été laissé pour mort, même à un certain moment, il a été emprisonné à plusieurs reprises. Voilà ce que Paul nous dit. Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela ? Alors courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est une récompense qui dure. C'est pourquoi, moi, je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. Je traite mon corps durement, j'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Paul, il dit, je continue la course. Paul dit, je ne vais pas m'arrêter, je ne veux surtout pas m'arrêter. Il n'en parle pas seulement pour le principe que je vous dis là, mais c'est aussi valable pour le principe que je vous dis là. Il dit, je ne veux pas m'arrêter les amis. Il dit, j'ai peur d'avoir commencé la course, puis de risquer de m'arrêter. Alors je suis dur avec moi-même, parce que ce n'est pas possible que je m'arrête. Et j'ai envie de vous dire, il faut qu'on se méfie du mensonge, du confort. Et je crois que pour l'Église en particulier, je sors un tout petit moment de la vie privée, pour l'Église en particulier, c'est un des plus grands défis, notamment en Occident. Parce qu'à partir du moment où vous avez une salle, où vous avez des sièges, où vous avez un certain nombre de personnes, on peut comme se dire, on est bien. On fait la volonté de Dieu, on a une église. J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas en train de s'arrêter ? J'ai aucun problème. Hein. C'est bon d'avoir un bâtiment, c'est bon d'avoir des sièges, c'est bon d'avoir des... Mais est-ce qu'on est vers la terre promise ou est-ce qu'on s'est arrêté en chemin ? Est-ce qu'on continue à aller chercher ce que Dieu a pour nous ou pas ? Je vous ai dit, hein, c'est facile, hein, ne t'arrête pas, oui, c'est bon Yves. Est-ce qu'on ne s'est pas arrêté à un moment donné ? Individuellement, collectivement, est-ce qu'on ne s'est pas arrêté à un moment donné ? Mon troisième et dernier point, la perte de la vision. C'est fascinant de voir Caleb, à 85 ans, se rappeler de ce que Dieu lui a dit 45 ans avant. C'est fascinant parce que, comment vous dire, pour les plus jeunes, Caleb n'avait pas d'iPhone avec lui. D'accord ? Quand il est rentré, puis qu'il a dit un petit peu aux autres, il y a une terre promise, c'est merveilleux, et que Moïse lui a dit, là où tu es allé, ce sera pour toi et ta descendance. Vous allez avoir ça, Dieu il va vous donner cette montagne. Il n'a pas pu dire, attends, j'enregistre vite le message, c'est bon. Non, non, non. Il a continué. Puis vous savez ce qui s'est passé avant toute chose ? Quand Caleb est reparti, vous savez ce qui s'est passé avant toute chose ? La mort autour de lui, quasi non-stop. Il devait voir une génération s'éteindre. Allez étudier la vie de Caleb, hein. Ce que je vous dis là, c'est surprenant, mais autour de lui, les gens sont morts les uns après les autres. Et moi, j'imagine Caleb qui devait enterrer certaines personnes, qui devait mettre de côté, qui devait pleurer certaines personnes, puis se dire, Seigneur, il a dit qu'un jour j'aurai cette montagne. Puis je suis en train de partir comme à l'opposé de cette montagne, mais le Seigneur, il a dit qu'un jour j'aurai cette montagne. Ok, on est triste avec toi, t'as perdu ton époux, t'as perdu ton épouse, on pleure ensemble, mais écoute-moi, je continue parce que le Seigneur, il a dit que j'aurai cette montagne. Puis il arrive que toute la génération est éteinte. Et la prochaine génération, mais on fait quoi en fait? Nos parents, ils ont tourné en rond littéralement. On fait quoi? Et là, Caleb qui dit, je ne sais pas pour vous, mais moi, le Seigneur, il a dit que j'aurai cette montagne. Et je pense que les plus jeunes, parce que des fois, les jeunes, on est comme ça. Papy, tu peux même, c'est difficile de marcher, tu veux prendre quelle montagne? C'est pour ça que Caleb, il dit, mais toi, mon petit, tu ne connais pas qui est Dieu. Au moment où j'en aurai besoin devant ces géants, il va renforcer mon corps, je suis vigoureux. Quand il dit je suis vigoureux comme il y a 45 ans, je me demande d'où il prend ça. Je ne sais pas, peut-être physiquement il était vigoureux comme ça. Moi je crois que spirituellement il était resté vigoureux. Il a dit, toi tu crois que les combats ils se gagnent où? Sur nos genoux, je continue à me battre de la même façon qu'il y a 45 ans. Mon corps tu ne vois pas, mais Dieu lui il ne change pas. Les amis, je me demande, est-ce qu'on n'a pas perdu des fois la vision? Parce que des fois c'est ça qui se passe. Dieu nous a dit quelque chose. Puis en chemin, avec les défis, on peut comme perdre la vision. Reprenez l'exemple de David que je vous ai donné avant. David, c'est fou. Moi, cette histoire, à chaque fois, je me réjouis d'en parler avec lui. Parce qu'un jour, je parlerai avec David, pour ceux qui ne le savent pas. Amen, merci. Il y a le prophète Samuel qui lui met de l'huile sur la tête. Sa famille l'avait oublié, son père l'avait oublié, ses frères se moquaient de lui. Samuel, il dit, non, tu seras le prochain roi. Et après ça, le gars reprend son bâton, sans doute avec encore un peu d'odeur d'huile sur la tête, et il va garder les moutons. Imaginez l'attitude du gars, moi je suis sûr, il devait dire, ok Seigneur, il devait composer des chansons qu'on n'a pas dans les psaumes. Quand je serai roi, nanana. Hey, reviens un mouton, reviens. Quand je serai roi. Il devait avoir des morceaux à lui, tu sais, pour se motiver lui-même. Après on lui dit, il y a le roi qui a besoin d'un musicien. Bon, un jour, c'est moi qui serai roi. En attendant, je vais déjà aller dans le palais. Je fais du repérage, c'est pas pire. Je fais du repérage. Quand ce serait moi ici qui serais chef, je modèlerais différemment. Ça, c'est pas mal, mais ok. Après, il est parti. Il a été pourchassé par le roi. Mais il devait se rappeler un jour qu'il avait reçu de l'huile sur la tête et un prophète qui lui avait dit de la part de Dieu, tu seras le prochain roi. Est-ce que nous, on n'a pas perdu la vision, les amis? C'est la question que je me pose avec vous ce matin. Parfois, on s'arrête d'avancer parce qu'on a perdu la vision. On ne sait plus vraiment pourquoi on fait ce qu'on fait. On est comme dans un confort, ça va pas mal. Et puis, c'est comme un peu l'histoire d'un voyage. Il faut prendre nos vies, nos destinées comme un voyage, les amis. Il faut qu'on voie que c'est comme un voyage que Dieu a pour nous. Puis, il y a une destination pour nous. Mais des fois, dans le voyage, je ne sais pas si ça vous a pris, mais des fois, dans le voyage, le paysage est tellement beau. Il y a comme un certain confort qu'on se dit, on pourrait s'arrêter là. Si vous avez déjà fait ça, nous, pendant des années avec la famille, on faisait des voyages où on partait en voiture. Pour les plus jeunes, avant, ce n'était pas que l'avion pour aller en vacances. On pouvait aller en vacances avec la voiture. Et on roulait comme c'était plus de 800 km qu'on roulait. Puis des fois, on s'arrêtait sur des aires de repos. Puis des fois, on s'arrêtait, il y avait des hôtels. Là, on était avec Janet dans la région de Bordeaux avec les filles. Et on a dû aller sur le côté d'Arcachon depuis Bordeaux. Et on a vu des merveilleux lacs alors qu'on roulait là. Et c'est comme on s'est dit, on pourrait s'arrêter là, puis ce serait très bien. Et je me suis dit, des fois dans la vie, c'est ce qu'on fait. On avait une vision, on avait une destinée, mais des fois, dans le long du chemin, on s'arrête. Puis on dit, c'est pas mal aussi ici, alors peut-être je m'arrête là. C'est possible que notre vision, elle perde de la clarté. vais vous raconter un tout petit bout de mon histoire. Certains le savent, j'ai été aux États-Unis pendant un temps. J'étais dans cette église, on avait commencé les balbutiements du groupe de jeunes qui s'appelle aujourd'hui Ad Hoc. Et puis j'ai eu une opportunité, puis j'ai fait du basket assez sérieusement à un certain niveau. Et puis je suis parti aux États-Unis pour essayer de poursuivre ce rêve. Et c'était intéressant parce que j'étais dans une relation particulière avec Dieu, j'étais pas proche de lui, mais j'étais conscient qu'il existait. Puis je lui avais dit, si tu ouvres les portes, si tu me permets d'aller aux États-Unis, je vais y aller. Et puis je resterai si. Puis j'avais mis comme des conditions avec Dieu pour rester. Et puis 3 mois plus tard, je suis rentré. Et vous pouvez demander à mes parents qui sont venus me chercher à l'aéroport, ils m'ont dit, alors c'est quoi la suite? Et ma première réponse était, je sais pas. Et j'ai pas souvent raconté cette histoire, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment une possibilité de rester aux États-Unis. Une possibilité extrêmement sérieuse. J'avais un emploi qui était disponible, j'avais un lieu de vie qui était disponible, j'ai resté en plus dans le contexte du basket, c'était exactement ce que je voulais moi. Mais c'était pas tout à fait ce que j'avais dit avec Dieu. Puis vous savez, ça a été une décision pendant 2 ans. Vous pouvez demander à Janet qui m'a rencontré peu de temps après ça. Pendant 2 ans, j'ai été amer de cette décision. Pendant 2 ans, j'ai été amer de cette décision parce que j'étais là, mais ça fait pas de sens. Je suis rentré en Suisse, j'ai fait un échec définitif d'abord à l'université. J'étais là, mais il faut que je retourne aux États-Unis. Il y avait quelque chose pour moi là-bas. Puis en même temps, dans ma relation toute brisée, dans l'homme tout brisé que j'étais avec Dieu, Dieu m'avait révélé qu'il avait une destinée pour moi. Et puis je savais que j'allais accepter le confort, un certain prestige. Il y a peu de Suisses qui vont aux États-Unis pour le sport et puis qui trouvent une place là-bas. J'avais des personnes extrêmement prestigieuses autour de moi. J'avais le privilège de côtoyer des gens qui jouent dans les meilleures des ligues. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait pour moi. Puis je suis rentré, puis ça a été extrêmement difficile. Puis j'ai rencontré Janet et puis je ne comprenais pas. Puis on a repris le groupe de jeunes ici, Ad Hoc, et puis je ne comprenais pas. Il y avait Luc et Joya qui étaient plus fervents, puis qui voyaient mieux que nous, qui voyaient plus clair que nous. Puis moi, je ne comprenais pas. Puis je vous dis aujourd'hui, je sais plus que jamais que je suis dans ma destinée. Elle n'est pas encore accomplie, les amis. Hein. Elle n'est pas encore accomplie. Là, je vous prêche, mais je me prêche à moi aussi. Moi, je ne vais pas m'arrêter. Dieu, il a dit certaines choses sur nos vies que je n'ai pas encore vues. Je me rappelle de ces choses-là. Puis je veux continuer à aller prendre possession de la terre promise que Dieu a pour nous. Mais je sais aujourd'hui, et je vois très bien, en regardant dans le passé, et plusieurs amis proches de moi ont dit, c'est tout à fait possible que tu serais passé à côté de tout ce que tu vis maintenant si tu étais resté aux États-Unis. On peut vite perdre la vision. Pavel me précède ici, c'était un point bonus que je voulais vous donner. En philosophie, on dit, j'ai fait de la philosophie pendant longtemps, je continue à en faire un petit peu, le chemin est plus important que la destination. Puis ça, c'est par rapport à la réflexion, c'est par rapport au schéma de pensée, c'est par rapport à la construction de son argumentaire, et c'est tout à fait vrai, le chemin est plus important que la destination. Mais je crois que c'est vrai aussi avec notre marche avec Dieu, vous comprenez? Des fois, on se demande pourquoi c'est si difficile, Seigneur? Pourquoi est-ce que je dois me battre? Pourquoi est-ce que je dois cheminer avec toi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas tout de suite dans ma terre promise? Puis je crois en fait que, vous savez, le Seigneur, il en a beaucoup plus après notre cœur qu'après notre destinée. Et puis le chemin, il prépare notre cœur pour la destinée. Puis je crois que des fois, on est juste en train de se dire, ça va pas. Et voyez l'image que je vous ai donnée de Caleb et des autres, ils disaient, le cœur, il n'était pas prêt. La terre promise, elle était prête pour eux. Mais leur cœur, ils n'étaient pas prêts. À tel point qu'il a dit, c'est une question de peuple ici. Il y a une génération qui doit passer. Puis vous savez, je pense que Dieu veut faire plein de choses ici. Il veut faire plein de choses dans le monde. Puis il attend que le cœur des chrétiens soit prêt. Puis que des fois, on lui dit, Seigneur, si seulement... Puis il dit, mais toi, est-ce que tu es prêt à prendre le chemin que ça veut dire? Est-ce que tu es prêt à aller vers la bataille d'après? Est-ce que tu es prêt d'aller vers le prochain moment où tu sais? Mais nous, des fois, on avance, puis on voit l'embûche, puis on dit, ok, je vais faire 3 pas de recul. Seigneur, enlève l'embûche, fais disparaître ces choses-là. Puis le Seigneur dit, non, toi, tu dois passer au travers de ces choses-là. Parce que ton cœur, il va se préparer pour la suite. Si seulement j'avais le temps avec vous, je vous parlerais de tous les héros que je vous ai dit, et je vous montrerai comment dans leur parcours, ils ont eu leur cœur qui a été façonné. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Moïse, vous savez, il savait qu'il avait un rôle à jouer pour son peuple. C'était comme sur son cœur. Puis il a voulu le faire à sa manière, puis ce n'était pas prêt. Puis vous savez, il est parti, et puis il est devenu berger. C'est intéressant de voir qu'il devait apprendre à être berger des moutons avant de pouvoir devenir berger du peuple. Vous voyez ? C'est intéressant de voir Joseph qui était sûr que lui avait tout compris, puis qu'il était capable, et puis que Dieu voulait l'utiliser. Et puis qu'à la fin de sa vie, après son temps, il a dit, en fait, c'est pas moi qui suis capable. C'est Dieu avec moi qui rend les choses capables. Quand Pharaon lui dit, tu peux pas expliquer les rêves, Joseph, il dit, moi, je suis pas capable. Mais Dieu, lui, il peut. Et c'est Dieu qui va expliquer ton rêve. Dieu en a plus après ton cœur qu'après ta destinée. Le problème, c'est qu'on reste coincé, qu'on s'arrête parce que la destinée ne semble pas arriver. Et en s'arrêtant, c'est notre cœur qui cesse d'être transformé. Je vous l'ai dit, les amis, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. J'aimerais terminer en priant avec vous. J'aimerais terminer en priant avec vous, avec ceux qui sont à fond. Et vous savez, il y a quelque chose de particulier, mais une de vos doyennes ici, Marthe, c'est une héros de la foi pour moi. À chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher ici, de la voir, mon cœur est dans une joie particulière, les amis. Parce que, au travers de mon parcours, j'avais été blessé par l'Église. Mais il y avait Marthe qui était ici quand je suis entré la première fois dans l'Église. Et là, je vous parle de ça, ça fait 20 ans en arrière. Je sais, j'ai l'air jeune, certains se disent, mais 20 ans, oui. Il y a 20 ans en arrière, je suis entré dans cette église et Marthe m'a accueilli ici. L'amour qu'elle m'a démontré, ça m'a donné le privilège. Je ne prends pas à la légère tout ce que je vous dis là. Je ne vous parle pas en vous disant de loin, ça y est, vous avez des choses. Je parle, c'est sur mon cœur, vous êtes sur mon cœur, vous êtes sur notre cœur avec Janet. Mais c'est pas, je ne peux pas ne pas vous dire ça. Wilfried a dit au départ, Dieu a mis quelque chose sur notre cœur et on était en vacances et on a entendu un message qui ressemblait un peu à ça, où il y avait le principe spirituel qui était donné et au milieu du message, il dit, ok, je sais sur quoi je vais prêcher à Carouge. C'est quelque chose, j'ai l'impression que le Seigneur veut réveiller vos cœurs par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est comme, beaucoup de vos cœurs doivent être réveillés par rapport à ça, individuellement. J'ai l'impression que le Seigneur, il dit ça parce qu'il y en a qui sont arrêtés. Et puis attention les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont bien plus vieux qu'ils l'imaginent. Attention les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, vous êtes arrêtés, vous n'avez même pas fini l'université. Mais vous êtes déjà arrêtés. Ce message, il est pour tout le monde. Et ce message, il est aussi pour vous en tant qu'église. Alors, j'aimerais faire une chose que je fais régulièrement quand je prêche à l'extérieur de mon église, parce que je ne vous connais pas tous. Je ne sais pas si vous avez tous commencé à cheminer avec Jésus. Peut-être certains d'entre vous, vous ne l'avez pas fait. On a parlé avant des baptêmes, vous avez vécu des baptêmes, peut-être vous avez juste manqué la série de baptêmes. Puis c'est le temps que vous vous mettez en route pour la prochaine série de baptêmes. Peut-être certains d'entre vous, vous ne savez pas, vous êtes même tellement éloigné de Dieu. Certains d'entre vous, c'est comme ça fait longtemps, Dieu. Et j'ai envie de vous donner une occasion de dire, Jésus, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi. Je veux entrer dans la vie que tu as pour moi. Je veux te donner ma vie. Je veux croire que tu sais mieux que moi ce qu'il faut pour moi. Je veux abandonner ma vie entre tes mains. Et puis je vais vous demander, il n'y a rien de magique à ça, mais je ne vais pas le faire dans le vide. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous, vous n'avez jamais pu donner votre vie à Jésus? Vous n'avez jamais pu vous baptiser? Ou alors vous l'avez fait il y a longtemps, puis vous savez que c'est comme si vous étiez parti très très loin de tout ça. Et puis vous dites, ce matin, en entendant ce message, je me rends compte que je me suis arrêté. Je me rends compte que je n'ai jamais commencé mon chemin avec Jésus. Puis je veux changer la donne. Ce matin, je veux prendre la décision de suivre Jésus. Et je vais juste vous donner l'occasion de le faire. Simplement, là où vous êtes, dire je veux donner ma vie à Jésus, je veux le suivre ou je veux reprendre ce chemin avec lui. Et vous êtes dans un contexte ici où beaucoup, la plupart, ont fait ce choix. On va vous soutenir, on va être heureux avec vous, on va se réjouir avec vous. Mais si c'est votre cas, il faut que vous nous le disiez. Et je vous demanderai de lever la main simplement là où vous êtes, si vous avez envie de suivre Jésus, si vous avez envie de revenir auprès de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné par ça? Yes! Yes, je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est concerné par ça? Je vois cette main, excellent. Je vais prier avec vous, puis je vais inviter tout le monde à prier avec vous. Puis je vais vous donner un seul devoir. Allez parler avec un responsable de l'église ici. Si vous connaissez les pasteurs, allez directement vers eux. Si vous ne connaissez pas les pasteurs, vous pouvez aller vers quelqu'un d'autre, demander vers qui vous pouvez être dirigé, parce qu'ils ont envie de cheminer avec vous par rapport à ça. Même si c'est juste un retour. Allez, on parlait avec quelqu'un. Parce que c'est merveilleux le privilège qu'on a de ne pas faire la vie seule. Dieu, il est là avec nous, mais il nous donne une famille autour de nous. Mais je vais prier avec vous qui avez levé cette main. C'est une prière où on s'engage. Et puis tous ceux qui ont déjà fait cette prière, je vais vous encourager à vous réengager aussi avec ceux qui le font. C'est jamais trop. Et si vous dites, mais pourquoi j'ai l'impression de le faire souvent? Demandez aux gens qui sont en couple. On n'est jamais lassé d'un « je t'aime ». Alors prenez-le comme un « je t'aime à Dieu » une fois de plus. Et on va le dire ensemble, et on va le dire fort, en particulier avec ceux qui ont levé la main. Et on dit la chose suivante, « Seigneur Jésus, merci pour ta vie. Merci pour ta mort à la croix qui me rend la vie. Ce matin, je désire te suivre. Je m'engage à te suivre. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes erreurs, pour ma vie loin de toi. Et je le répète, merci parce que tu as pris mes péchés à la croix. Je désire te suivre. Prends-moi la main et guide ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. On peut applaudir ceux qui ont fait ce choix. C'est trop beau. Il y a encore deux sujets de prière, les amis. Pour tous ceux qui sentent, je l'ai dit au début, c'est simple, ne t'arrête pas, mais peut-être tu te rends compte, je me suis arrêté dans la vie. Je me suis arrêté dans ma marche avec Jésus. Je me suis arrêté dans ma poursuite de la destinée que Dieu avait pour moi. C'est comme, quelle que soit la raison, je me suis arrêté. Et si vous vous êtes arrêté, j'ai envie de vous dire, c'est une merveilleuse occasion de reprendre la route. Et il n'y a pas de condamnation ici. Il n'y a pas de jugement ici. Vous savez, Jésus, je crois qu'il attendait impatiemment qu'on reprenne la route. Et c'est complètement OK de dire ce matin, en fait, je me suis arrêté puis je veux reprendre la route. Si c'est votre cas, si d'une façon ou d'une autre, vous vous rendez compte que vous vous êtes arrêté, ce que je veux vous inviter à faire maintenant, c'est à vous lever. Levez-vous là où vous êtes en disant, il faut que je reprenne la route, il faut que je reprenne la route. Yes, il y a des gens qui commencent à se lever. C'est comme vous vous rendez compte et on se prépare. C'est comme le coach qui vous dit, c'est le temps que tu vas rentrer sur le terrain, puis vous vous levez, puis vous vous préparez. Il y a des gens qui se lèvent. Est-ce qu'il y en a qui doivent reprendre la route? Est-ce qu'il y en a, vous vous rendez compte, dans votre vie privée, je me suis arrêté. Dans ma vie avec Dieu, je me suis arrêté. Il y avait du confort et j'ai commencé à voir le confort, puis à m'arrêter. J'ai commencé à perdre la vision. Ou bien, en fait, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ma peur de perdre. Puis je veux redécouvrir l'esprit qui m'anime d'avoir le désir de gagner. Je vois les gens qui se lèvent. Yes, je me tiens avec vous debout. C'est une prière, les amis, qu'on doit faire régulièrement. Je vous vois et c'est OK. On va aller de l'avant. Il y a une terre promise pour toi. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui s'est levée. Chaque personne qui s'est levée puis qui se rend compte d'une façon ou d'une autre, je me suis comme arrêté sur la route. Puis ce matin, on parle de ne pas s'arrêter. Puis je veux reprendre la route. Je te prie pour tous ceux qui ont plus peur de perdre que le désir de gagner. Seigneur, par ton esprit, viens et insuffle ce désir de gagner, cette envie d'avancer, cette posture de vie qui dit « je ne vais pas me retourner, je vais continuer à courir ». Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont comme « il y a le confort » et puis « c'était devenu agréable » et puis « on s'est comme arrêté » qui se rappellent ce matin « attends, est-ce que Dieu est encore là ?» La question, ce n'est pas mon confort, la question, ce n'est pas « est-ce que j'ai tout ce que j'ai besoin ?» c'est « est-ce que Dieu est encore là ?» Parce que si Dieu n'est pas là, je ne veux pas rester là. Je veux continuer. Et je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui ont comme perdu la vision le long de la route. Je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur, mes frères, mes sœurs qui se sont levés et qui disent, il faut que je continue. Donne-leur, Seigneur, la stratégie, donne-leur l'entourage, anime-les, insuffle ton esprit en eux. Donne-leur un zèle renouvelé, Seigneur. Seigneur, fais ce que toi seul tu peux faire. Je te prie, Seigneur, que le même esprit qui a animé Caleb nous anime tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut aussi applaudir chaque personne qui s'est levée. S'il y a une personne à côté de toi, fais-lui un high five, mets-lui une main sur l'épaule. Bravo pour ce choix, cette décision. Et j'aimerais terminer en priant pour vous en tant que communauté. Il y a un verset qui brûle sur le cœur de votre pasteur depuis de nombreuses années, le pasteur Mwanza, qui est « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Puis demain s'ouvre le camp « Back to school ». Et puis le pasteur me disait encore à quel point il disait, c'est toute la communauté qui doit avoir ce désir parce que ça fait partie de notre mandat, ça fait partie de notre vision d'être une église où la jeunesse va être vibrante. Puis une jeunesse vibrante, ça prend toute une communauté, pas seulement des parents, pas seulement des grands-parents, ça prend aussi des oncles et des tantes et des cousins et des cousines, ça prend que tout le monde dise, ça c'est nos enfants. Et il y a beaucoup plus encore pour vous les amis, pour la jeune génération. J'aimerais prier pour que vous puissiez voir ça et puis voir comment Dieu vous invite à entrer toujours plus. Vous savez, petite histoire, quand on est entré ici, dans l'église, il n'y avait que deux familles avec des enfants. On était littéralement que cinq enfants. qui venaient régulièrement à l'église, que 5 enfants. Et sur ces 5 enfants, 3 étaient de la famille du pasteur. Et 2 autres étaient d'autres familles. Le groupe de jeunes que vous avez aujourd'hui qui s'appelle Adoc, le premier camp qu'on a fait, il y avait 4 responsables pour 2 jeunes. C'est juste pour vous donner un peu une... Et là, je vous parle de ces dernières années. Mais il y avait déjà eu quelque chose par rapport à la jeunesse avant nous, ici. Puis il y avait des générations qui priaient pour la jeunesse. Puis j'ai l'impression qu'il faut que ça revienne. Parce que la jeunesse que vous avez maintenant, c'est que le début. C'est que le balbutiement de ce que Dieu veut faire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes à Carouge et à Genève qui sont désespérément seuls, qui ont besoin de rencontrer Jésus et qui ont besoin que vous puissiez briller pour eux. Je veux qu'on puisse prier pour ça, mais il y a aussi votre pasteur Thierry, j'ai parlé avec lui. Et puis il me disait, il me parlait sur comment son cœur brûlait, puis il se réjouissait aussi d'un projet que vous avez d'un deuxième service. Les amis, il y a tellement de choses à aller s'emparer. Il faut qu'en tant que communauté, vous soyez désireux de dire, on se tient debout, on ne s'arrête pas en tant que communauté. On va continuer. Je vous ai donné 2 choses, mais moi j'en parle d'une troisième qui est sur mon cœur à moi, parce que c'était quand je partais, c'était vraiment un des gros chantiers. Vous avez un projet de bâtiment. Et je vais vous dire ce que j'ai reçu spirituellement alors que je priais, dans l'esprit, j'ai reçu alors que je priais pour ce moment qu'on allait passer. Et là, je ne vais pas rentrer dans la théologie, vous irez vers vos experts pour ça, mais ce qui se passait, c'est que plusieurs fois, le peuple a dit, si seulement on retournait en Égypte, parce qu'en Égypte, il y avait l'abondance. Mais Dieu ne voulait pas seulement l'abondance. Dieu, ce qu'il voulait aussi pour eux, c'est l'influence. Et l'endroit où il avait prévu de les amener, c'était un endroit qui avait non seulement l'abondance, mais aussi l'influence. Et alors que je préparais ce message et que je priais pour vous en tant que communauté, le Seigneur m'a rappelé, vous êtes situé dans un endroit d'influence à Carouge. Vous êtes situé entre le vieux et le futur Carouge. Il y a déjà une part du nouveau, mais il y a le futur qui arrive. Vous avez une place qui est stratégique. Et c'est comme si le Seigneur me disait, tu vas prêcher ça, parce que cette église, elle ne comprend pas, je l'ai placée là. Il y a plus de 130 ans, ça a commencé 100 ans, plus de 100 ans maintenant, ce bâtiment, parce que je savais ce qui allait venir. Il faut qu'on saisisse la mesure de ce qui se passe. Il faut qu'on saisisse la mesure de ce que Dieu a pour nous. Les amis, ce qu'on vous construisez ici, ce n'est pas pour vous seulement. Peut-être vous, vous n'aurez pas le confort, mais si dans 130 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 130 ans? Peut-être que nous, on sera juste dans le chantier, mais peut-être que vous êtes en train de construire une Sagrada Familia. Les gens vont à Barcelone, la cathédrale n'est pas encore finie, mais le gars qui l'a commencé, il avait vu quelque chose. Qu'est-ce que vous voyez pour ici? Alors si vous avez la foi avec moi, que Dieu veut utiliser ce lieu, que Dieu veut que ce lieu continue à être, je vous invite à vous lever maintenant, on va prier pour votre église, les amis. Moi, je le fais en tant que visiteur, ami de longue date, membre de la famille élargie. Mais là, c'est votre église à vous. Ce n'est pas ma prière, c'est votre prière à vous. Pour la jeunesse, pour le deuxième service, pour le bâtiment, pour ce que Dieu veut faire ici, il faut que vous puissiez continuer, il faut que vous puissiez ne jamais vous arrêter. Seigneur, je veux te prier avec tous mes frères et sœurs pour cette communauté. Je veux te prier pour cette église ici, Seigneur. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont posé des jalons pour qu'on puisse être ici. On veut les honorer, Seigneur. Puis on veut regarder devant et on veut dire, on ne veut pas s'arrêter, Seigneur. L'église de Carouge ne va pas s'arrêter. Elle veut saisir ce que toi, tu as pour elle et rien d'autre, Seigneur. Je te prie pour toute la destinée que tu as pour cette église. Je te prie pour les projets au niveau de l'enfance, je te prie pour les projets au niveau de la jeunesse, je te prie pour le back to school et toute la vie de la jeunesse qui se développe ici et que tu veux continuer à développer. Je te prie pour le deuxième service, Seigneur, que les cœurs soient prêts, que les cœurs soient prêts et que l'envie soit là d'accueillir plus de monde, Seigneur. Les autorités disent à Carouge, le problème c'est la solitude et je crois que l'église de Carouge veut répondre en disant, nous on est présents. Et ce n'est pas d'accord que des gens restent seuls. Nous, on veut être un lieu où les gens vont trouver des frères et des sœurs, un lieu où les gens vont trouver Jésus, un lieu où les gens vont trouver une destinée. Parce que nous, on marche dans notre destinée en tant qu'Église. Je te prie pour les autorités, pour les pasteurs dans cette Église, Seigneur. Je te prie pour les équipes de responsables dans cette Église, Seigneur. Je te prie que personne ici ne soit animé d'un autre esprit que celui qui regarde devant et qui continue. Et je proclame, Seigneur, avec l'Église debout, on ne s'arrêtera pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.